6h27. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, c'est par texto. Plein soleil sur Québec, profitez de la journée, les amis. Allez prendre une petite balade à l'extérieur sur l'heure du midi après avoir lunché. Allez luncher sur les terrasses. Allez prendre une petite bière sur les terrasses ce soir après le boulot avec les collègues ou avec les amoureux, les amoureuses. Vous allez avoir du plaisir. Puis la température sera au rendez-vous sur la route.
C'est déjà un petit peu compliqué pour ce qui est de l'accès au pont Pierre-Laporte direction nord. Ça refoule quasiment déjà jusqu'à la rue Beaulieu. Sinon, par la 20 ouest, le bon ralentissement hauteur chemin des îles. Même chose, ça continue là, vers Taniata. Et pont de Québec direction nord aussi. Il y a déjà du rouge sur la rive nord. Ça roule encore bien.
Le chum Juju qui nous écrit. Salut, merci de faire de mes matins agréables. Très drôle de me tenir informé des nouvelles. La capitale nationale, signé un remorqueur qui est sur la route toute la semaine à partir de 5h du matin. T'es courageux, Julien. Je te salue. Merci d'être là. Fais attention à toi sur le bord des routes. Puis pour les gens qui savent pas c'est quoi la loi, quand il y a un véhicule d'urgence qui est arrêté sur le bord de l'autoroute, Jeff, qu'est-ce qu'on doit faire?
On doit faire un mouvement vers la gauche pour laisser justement l'espace requis aux policiers.
Tassez-vous.
Et à la personne qui est avec les policiers, un espace sécuritaire.
Exactement.
On appelle ça le corridor de sécurité en français.
Le move over law. Ça existe au Québec depuis quelques années. Aux États-Unis, ça existe depuis très, très, très longtemps. Puis ici, c'est pas encore passé dans la tête des gens. Donc, les gens, ça leur dérange pas de passer à 120 km/h à 1,5 m d'un individu. Mais sachez que pour ces gens-là qui travaillent sur le bord de la route à tous les jours, ils se lèvent le matin en l'espoir de revenir à la maison. Fait que pensez un peu à eux.
Aux États-Unis, j'en ai déjà vu un partir après. Quelqu'un qui n'avait pas laissé le corridor de sécurité. Je pense qu'il n'a pas fini son ticket qu'il est en train de donner. Hey, le char est vraiment passé très rapidement, là, justement, 110-115 km/h. Puis le policier s'adonnait à sortir de son véhicule, je pense, pour aller redonner la contravention. Vioum, il s'est fait sciller le corps entier. Il a laissé tomber ce qu'il est en train de faire. Il a embarqué dans son char. Il est parti, ses quatre flasheurs. Il est allé te le rechercher.
Ben, c'était insultant. C'était un remorqueur de la Rouche Remorquage qui m'avait raconté ça à l'époque. Il était-tu sur l'autoroute? Il devait être sur l'autoroute ou sur une route qui était quand même assez rapide. Puis, tu sais, il y a des gros 4x4 qui doivent traîner des grosses charges derrière, des grosses remorques. Fait qu'il s'ajoute des miroirs qui peuvent étirer pour être capable de voir exactement qu'est-ce qui se passe en arrière de la remorque. Et le remorqueur m'a dit, Yann, si je me baisse à part la tête, je me faisais arracher la tête.
Imagine.
Puis, tu sais, quand même qu'il aurait voulu repartir après pour essayer de le pogner, il n'aurait pas pu. Mais
ben non.
Il fallait se faire tuer par un miroir.
Ben, c'est ça.
Tu travailles fort toute ta vie, puis la fin de ta vie, c'est quelqu'un qui n'est pas alerte vraiment, qui t'arrache la tête avec son miroir qui vient de poser.
Ouais, c'est quelqu'un qui roule à 110 km/h, puis patao, c'est terminé.
Ouais. Les news 6h31, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021 par texto. Max, qu'est-ce que tu as à nous apprendre ce matin, en ce 9 juin 2026?
D'abord, un petit suivi de dossier, le SPVQ qui privilégie actuellement l'hypothèse d'une erreur sur la personne dans le dossier de la jeune femme de 19 ans atteinte par balle dimanche soir à Sainte-Foy. Selon les informations qui ont été recueillies, il n'y a rien qui indique que la jeune femme était la cible visée. Les enquêteurs qui poursuivent leur travail pour faire la lumière sur les circonstances exactes. Le journal qui notait hier que la même adresse a été visée par un événement similaire il y a 4 mois. Donc, on va voir, on va attendre d'avoir plus d'informations. Une arme à feu a été découverte hier matin à l'intérieur du pavillon Adrien Pouliot de l'Université Laval. Ça a évidemment mené à une intervention du SPVQ. Selon le Journal de Québec, c'est un membre du personnel qui a fait la découverte vers 11 heures. Découverte qui aurait été faite par hasard en faisant des travaux dans le plafond des toilettes du pavillon. L'arme qui était cachée dans un trou. Il y a une boîte qui contenait possiblement des munitions qui auraient également été retrouvées. Les policiers qui ont saisi tout ça, on va soumettre ça à des analyses. Il est trop tôt pour établir des liens avec quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est sûr que la première crainte qu'on a, c'est est-ce quelqu'un qui avait un plan puis qu'on a trouvé l'arme à temps? Là?
Un peu, là. Il a fait de la job d'entretien. Donc, il faisait du ménage. Où?
Mais c'est des travaux dans les murs, dans les toilettes du pavillon.
Il faisait le ménage?
Des travaux.
OK, il faisait des travaux.
Dans les toilettes, dans le plafond des toilettes.
Fait qu'il a trouvé ça par hasard. Je pensais que c'était l'employé d'entretien qui faisait le ménage qui avait trouvé ça là. Je me dis, tabarouette, d'après moi, il y a eu des indices. Là.
Non, c'était des travaux dans le plafond. Puis c'est ça, tu te dis, on l'a-tu trouvé à temps avant qu'il arrive une catastrophe? Comme je dis, on n'a pas d'infos en ce moment, là. Mais le pire a peut-être été évité. La Ville de Québec s'attaque à la problématique du bruit dans le Vieux-Québec. Le journal qui a appris qu'elle installera 7 capteurs au coût de 10 000 $ chacun pour mesurer le phénomène cet été. Et au besoin, elle donnera davantage de mordant à son règlement anti-bruit. Des étudiants embauchés par la Ville pour différentes tâches vont aussi parcourir les rues du Vieux pour réaliser d'autres mesures de bruit avec leur téléphone. Cité par le journal, la conseillère municipale Marianne White explique que c'est la première fois qu'on fait ça, mesurer le bruit dans le Vieux-Québec. Elle ajoute qu'à la fin septembre, on aura un portrait complet qui va nous indiquer où sont les zones de bruit les plus sensibles et quelle est véritablement l'ampleur du bruit.
Donc après la police des chats, après la police des poubelles, maintenant voici la police des sons.
Tu nous fais un hommage à Ivan Drago dans Rocky IV?
Police des poêles à bois ou la Gestapo des poêles à bois. Appelez ça comme vous voulez. Québec est dirigé par quelqu'un qui aime bien la police. Puis il invente des départements policiers alors qu'il nous dit qu'il dépense pas l'argent des contribuables, qu'il administre bien l'argent des contribuables. Les surplus là, qu'on a à Ville de Québec, posez-vous pas la question à savoir où ça a passé. On va procéder à l'embauche d'étudiants qu'on avait visiblement pas de besoin. On va leur donner... ils vont prendre leur cellulaire, ils vont télécharger une application, puis là, ils vont avoir des rapports à faire. OK, là à côté de chez Jeff, là, sur la rue Saint-Jean, ça a sonné pendant 2 minutes à 110 décibels. Puis là, ils vont remplir ça sur un papier. Les gens à la ville vont colliger toutes ces informations-là et ils prendront des décisions par la suite. Mais sachez que chaque capteur vaut au-dessus de 10 000 $, puis on va en acheter quelques-uns qu'on va répartir à certains endroits.
Vous croyez avoir tout vu avec ces jumelles thermiques qui regardaient si votre foyer fonctionnait en hiver. Ce n'était pas terminé. Voici maintenant les capteurs de son.
Max.
L'entretien du viaduc de la rue Jean-Marchand qui enjambe l'autoroute de la Bravoure aurait été négligé, selon des ingénieurs du gouvernement du Québec. Cité par le journal, le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, Marc-André Martin, déplore l'état de l'infrastructure sur lequel des travaux d'urgence ont été amorcés cette semaine. Il lance que l'un des blocs d'assises du pont est complètement cassé et n'est plus là. Ça veut dire qu'au lieu de reposer sur une assise solide, le bloc de ce coin-là est appuyé sur environ 40% de sa surface et 60% qui est dans le vide. Monsieur Martin a accompagné le journal pour une petite analyse de la structure du viaduc et dit que les fissures mineures nommées dans le rapport, il est capable de passer sa main dedans sans problème, dit que c'est très friable puis que sans forcer, il pourrait enlever une bonne épaisseur en grattant avec ses doigts. Des tiges structurelles sont à découvert, il peut les faire bouger. Il va falloir faire des prélèvements pour vérifier l'état du béton en profondeur, dit-il. Le ministère des Transports qui assure que le viaduc ne représente aucun danger pour la population malgré les travaux d'urgence. Plus de 350 citoyens ont participé hier à la porte ouverte organisée par la Ville de Québec concernant les travaux et la réorganisation de la circulation et du stationnement dans Saint-Roch. Radio-Canada rapporte que la démolition de la passerelle Adrien-Pouliot préoccupe particulièrement des piétons et des cyclistes qui circulent dans Saint-Roch, eux qui craignent de ne plus se sentir en sécurité. Un citoyen déplore notamment que c'est assez risqué en général de passer soit à pied, soit à vélo au passage piétonnier aménagé à côté de la passerelle. Ajoute que c'est vraiment très large, que les autos arrivent vite. Un autre citoyen avec des préoccupations semblables qui dit être rassuré par les réponses de la ville. Le porte-parole Jean-Pascal Lavoie a expliqué qu'après la démolition de la passerelle, le passage piétonnier aménagé juste à côté sera bonifié. Rappelons que la démolition de la passerelle Adrien-Pouliot doit débuter le 19 juin. Ça va causer une fermeture complète puis partielle de Laurentienne. Les 4 centres de services scolaires de la région de Québec ont déposé au gouvernement des demandes pour 20 projets de construction d'écoles et 21 projets d'agrandissement au cours de la dernière année seulement. C'est le constat que fait Radio-Canada qui note que plusieurs écoles sont en situation de débordement extrême. La DG du Centre de services scolaires des navigateurs sur la Rive-Sud, Suzy Lucas, explique que le maximum a déjà été fait pour agrandir par en dedans, puis que si rien ne change, on sera plus en mesure d'accueillir tous les élèves du secondaire d'ici 2 ans. Dans les écoles primaires, elle explique que des enseignants doivent manger dans leur char parce que leur classe est utilisée par le service de garde pour le dîner, puis qu'il n'y a plus de local pour le personnel. Sur la rive nord, de nouvelles écoles secondaires sont notamment réclamées dans Beauport et dans le secteur ouest de la ville. Un projet d'agrandissement a aussi été déposé pour l'école du Fort, qui a été ouverte en 2024, puis elle déborde déjà. Le cabinet de la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, mentionne à Radio-Canada que l'analyse des demandes se poursuit. Et un autre projet informatique du gouvernement du Québec semble pas aller dans la bonne direction, on va le dire comme ça. Le journal qui nous apprend ce matin que l'État doit réinjecter plusieurs millions dans le projet informatique visant à mettre en place le nouveau programme de sélection de travailleurs immigrants. Le budget autorisé qui était pas loin des 10 millions de dollars, c'est un projet qui devait être complété la semaine prochaine. Mais là, finalement, c'est juste fini aux 3/4 et il y a déjà 11,2 millions qui ont été dépensés, fait qu'on buste déjà le budget. Le gouvernement s'est donc accordé un financement supplémentaire de 3,5 millions pour un budget total de plus de 13 millions et l'échéancier a été reporté à mars 2027. Les coûts d'exploitation, eux, qui sont évalués à 921 400 $ par année, ça viendra donc s'ajouter par la suite. Un porte-parole mentionne que concevoir, développer, déployer un programme d'une telle envergure entièrement en ligne, ça a nécessité beaucoup d'efforts à chacune des étapes de livraison.
Il y a juste moi qui pense que s'il y a du crime organisé là-dedans.
Dans les contrats informatiques?
Dans les contrats qui sont octroyés. C'est toujours la même affaire.
Je n'avais jamais pensé à ça.
Toujours le même modus operandi. Toujours des fonctionnaires qui signent des papiers sans nécessairement savoir ce qu'ils signent. Ou ils savent ce qu'ils signent, puis ils savent très bien ce qui s'en vient, puis sont récompensés ailleurs. Ça n'a pas de bon sens, les dépassements de coûts. Puis à partir du moment où tu vois des commissions qui mentionne toute la façon dont ça s'est passé, les contrats qui ont été octroyés, le laxisme et tout ça. Tu te dis dans ta tête, mettons qu'il y a des crimes qui sont commis. Mettons que le fonctionnaire qui signe ça, il est récompensé ailleurs. Quand il s'en va faire un tour au Mexique, là, on y met hey, on va être porter ton argent, puis transforme ça en bitcoin, on n'entendra plus parler. T'sais, tu te dis, après ces commissions-là, le fonctionnaire, il prendra plus de chance. Là, il va dire s'il y a des dépassements de coûts, on paye pas. Mais c'est plus ça. C'est organisé. C'est organisé pour qu'il y ait des dépassements de coûts constamment.
Ouais, c'est du crime organisé ou c'est de la grosse incompétence.
Oui, mais mettons que c'est de l'incompétence. Mettons que toi puis moi, on est incompétents, ouais. OK? Toi puis moi, on est incompétents. Puis là, moi, je me fais pogner dans le scandale, ça clique, là. Puis là, les dépassements de coûts à n'en plus finir. Puis là, je passe dans les journaux. Je me fais écœurer. Les gens marcellent sur les réseaux sociaux. Tu vas regarder mon histoire, tu vas dire « Moi, je veux pas que ça m'arrive. » Les prochains contrats que tu vas signer, tu vas t'arranger pour que ça soit droite. Visiblement, ça se fait pas. Donc, c'est organisé. À moins que tu me dises « Yann, un jour, je vais te faire la liste de tous les contrats où on est arrivé dans pile-poil
sur le montant. »
C'est ça.
T'as raison. Mais tu sais, est-ce que c'est du crime organisé? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est le gouvernement qui est pas assez à la fine pointe avec ses employés et ses gestionnaires de la technologie? Puis là, des grandes entreprises sont toujours capables de fourrer le gouvernement.
Mais c'est ça. C'est tout le temps de la magouille. Puis là, ils vont dire « Ah, il n'y a rien d'illégal là-dedans. » Vous volez l'argent du monde.
Oui.
Tu sais, si on octroie un contrat, puis si Québec fonctionne sur la loi du plus bas soumissionnaire, si on octroie un contrat, on devrait prévoir qu'à chaque tranche supplémentaire qui est demandée par l'entreprise qui a obtenu le contrat, il va avoir un pourcentage qui va être chargé à cette entreprise-là.
Exactement.
Écoute, ça te coûte 100 000? Sur le 100 000, tu vas devoir défrayer un 30 000, puis nous autres, on va donner le 70 000. Puis à chaque fois qu'on va dépasser de 100 000, ben, tu vas devoir déposer le 30 000. Fait que les entreprises vont dire, t'as peu, on est aussi bien de soumissionner au bon prix.
Ben oui, je suis très d'accord avec toi. Puis de toute façon aussi, on devrait pouvoir barrer les entreprises.
Quelqu'un qui nous dit, c'est du crime mal organisé. Ben, je trouve que c'est bien organisé parce qu'il y a des commissions, il y a des choses qui sont mentionnées à l'Assemblée nationale. Mon chef de régie travaille extrêmement fort pour parler de ce type de dossier-là. Puis les fonctionnaires continuent à signer des contrats qui n'ont pas de bon sens, qu'il y a toujours des dépassements de coûts.
Mm-hmm. Mais ça, chose certaine, moi, je pense qu'on pourrait commencer par mettre des entreprises sur la touche. Dire, hey, écoute, toi, ça fait trois fois qu'on fait affaire avec toi, là, puis on vient d'avoir pour 102 millions de plus, là, c'est terminé. On prend quelqu'un d'autre.
On va souhaiter que ça se règle un jour. Les sports. Sports. 6h42, la grosse nouvelle du jour, le père à Jeff Fortin est fâché après Simon Gagné.
Ben oui, après la controverse du repêchage en fin de semaine qui a forcé Simon Gagné à payer le gros prix pour aller chercher un choix de première ronde qui devait à Chicoutimi sans l'avoir, ben c'est ça, ça a l'air que le père à Jeff Fortin est bien fâché.
Non, c'est ça. Il a dit, c'est pas du junior, c'est du novice.
Oh, bon. Tabarouette.
Hein, ça, c'est tout qu'un jeu de mots. Donc, j'espère que mon père, qui prend son départ de golf à 7h30 et qui nous écoute à l'heure actuelle, va frapper une bonne première drive en pensant à Simon.
Hey, non, faut pas qu'il fasse ça. Là. Simon a le droit de faire des erreurs. Là. Il commence sa job dans sa job. Il a le droit de faire des erreurs. Là.
Oui, mais mon père t'exigeait.
Oh, ben non, mais tu peux
pas. Il regarde. Hey, écoute, là, mon père a rencontré ma mère à l'époque au rempart de Guy Lafleur, quand Guy Lafleur tenait rempart.
Ils se sont rencontrés au rempart.
Ils se sont rencontrés au rempart. Dans un voyage organisé pour aller voir les remparts à Drummondville.
C'est donc bien cute, ça, comme
oui, fait que c'est pour ça que tous les blondes que j'ai eues dans ma vie, ils reviennent pas. Ils disent toujours quand on arrive chez tes parents, même ta mère parle de sport.
Ah.
Ma mère est une fan finie de sport.
J'adore. À part ça, y a-tu d'autres choses d'important?
Ben oui, puis on peut rester dans les remparts parce que un peu en douce, parce que j'ai pas vu d'annonce là-dessus, mais le calendrier préparatoire semble avoir été dévoilé dans les dernières heures. Je suis quasiment tombé là-dessus par hasard sur le site de la LHGMQ. Ça commencerait donc le 21 août pour les remparts de Québec au pavillon Guy Lafleur. Puis autre information qui, à ma connaissance, avait pas été dévoilée, mais ce serait une super nouvelle pour les gens de la Beauce. Il y aurait une game Rimouski-Québec au Centre Castel de Sainte-Marie-de-Beauce.
Oh, solide!
Le 28 août. Fait que j'imagine qu'une annonce officielle devrait venir dans les prochaines heures, les prochains jours, mais ouais. C'est sur le site de la LHGMQ.
Puis pour ceux qui veulent des billets, là, attendez-vous pas à une aréna de campagne, là. Vous allez halluciner.
Ah, oh, le Centre Castel, c'est beau!
Vous allez complètement halluciner. Vous allez arriver à Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est une super de belle ville.
Ouais.
Mais c'est rare que tu vois ce type d'installation-là. Et sais-tu, c'est grâce à qui, entre autres?
À qui?
Ben, l'initiative des gens d'affaires et des femmes d'affaires et des hommes d'affaires qui sont à Sainte-Marie, qui ont acheté des bancs et tout ça, qui ont commandité. Mais c'est entre autres le député fédéral de l'époque, Maxime Bernier.
OK!
Ah ouais.
Ouais. C'est pas souvent dit à Sainte-Marie, ouais. Compte tenu de la fin politique de Maxime Bernier, là, mais c'est grâce à lui s'ils ont eu cette infrastructure.
Dans ce coin-là, tu as le Centre Castel. Ils ont refait un terrain de football en entier.
À l'arrière, c'est de toute beauté.
C'est écœurant. Édouard a joué là l'année passée. Centre Castel, j'ai vécu trois tournois de hockey là. C'est tout simplement magique. Le terrain de baseball aussi qu'ils ont refait. Je suis allé voir mes neveux jouer là. C'est de toute beauté. Surface de deck hockey, panier de basketball, le petit chalet pour les ados. Il y a une maison des jeunes en même temps. C'est extraordinaire.
Ah non, c'est de toute beauté. Puis la qualité de la glace aussi au Centre Castel qui est exceptionnelle. Fait que les remparts vont avoir un beau séjour à Sainte-Marie-de-Beauce.
La finale de la Coupe Stanley qui reprend ce soir 20h à Vegas. Les Golden Knights qui tenteront de pousser les Hurricanes au pied du mur en prenant les devants 3-1. Et c'est Brandon Boucy qui pourrait défendre la cage des Hurricanes. J'ai pas eu d'annonce à cet effet-là, mais peut-être que Frédéric Anderson pourrait être tassé. Coach Brindamour qui garde son jeu bien caché. Chez Peter Laviolette qui est le nouvel entraîneur-chef des Kings de Los Angeles. On est allé piger dans le vieux sac à coach du côté de LA et les Oilers d'Edmonton tentent de faire la même chose et seraient sur le point d'embaucher nul autre que Mike Babcock qui ferait un retour.
Ben non! Route.
Ça a l'air. Mais là, il faut que l'association des joueurs donne son OK, ça a l'air. Avec les problèmes qu'il y a eu autour de Mike Babcock puis comment il a traité les joueurs.
Je vais souhaiter vraiment beaucoup de malheur aux Oilers d'Edmonton.
Ouais, fait qu'on en est rendu là. La finale de la Ligue...
Il est rendu à 63, Mike Babcock.
Ah, puis c'est un... Tu sais, c'est un âge qui est correct pour un coach. C'est juste que lui, il a eu des problèmes qui a fait qu'il ne peut plus coacher dans la LNH.
Mais c'est quoi les problèmes?
Il traitait les joueurs comme du poisson pourri. Mais tu sais... pire que Tortorella, là.
Pareil, c'est les coachs qu'on connaissait à l'époque.
Ouais, mais t'es un exemple à ça. Marner, Mitch Marner, joueur recru à Toronto.
Ouais.
Mike Babcock, il demande, fais-moi une liste, selon toi, du gars qui travaille le plus dans l'équipe au gars qui travaille le moins. Puis j'imagine que c'était pour sensibiliser Marner au fait qu'il travaillait pas assez.
Ouais.
Mais après ça, Babcock, il a pris la liste à Marner, puis il a dit à tout le monde, voici ce que Marner pense de vous autres.
C'était une recrue.
Fait que là, imagine, là, ton Warner, il a dit, ouais, moi, je pense que Morgan Riley, c'est le pire. Mais là, après ça, Riley, dans le vrai cycle, ouais, c'est ça, comme ça, je travaille pas assez pour toi.
Et nous autres, Max, là, pis oui, là, on se faisait engueuler comme du poisson pourri dans la chambre. Là. Vraiment, là. Tu sais, t'as-tu vu la première série Lancé Compte?
Non.
Non, avec Pierre Lambert et Denis Mercure. Tu sais, les coachs, là, aujourd'hui, ces coachs-là, aujourd'hui,
ben oui, non, ça
ils seraient en prison, là, les enfants, les gros-enfants de 25 ans seraient terrorisés dans la Ligue nationale avec des coachs de même.
Avez-vous vu les livres, ça emprunterait peut-être la voix du Canadien avec Joe Pavelski comme entraîneur-chef?
Ah ouais.
Ça a sorti hier. Martin Saint-Louis, là, il coach ses enfants dans le Pee-Wee, là. Puis les livres, il aurait convoqué une entrevue.
Fait que Roy n'aurait pas de job.
Ben, dépendamment, c'est, ils disent vraiment que Roy est en avance, mais on parle aussi de peut-être un move surprenant avec Joe Pavelski. Je lisais ça hier.
Babcock, as-tu déjà gagné une Coupe cette année? Non, hein?
Il a joué... Oui, avec les Red Wings.
Ouais, c'est vrai, les Wings. À l'époque, 2008, c'est lui qui avait gagné avec les Wings.
Ouais, okay. C'est
fait
ça.
Qu'il a été avec les Mighty Ducks d'Anaheim, les Red Wings de Détroit pendant plusieurs années, puis après ça, il a fini sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto.
Oui, puis là, il avait été embauché par les Blue Jackets de Columbus.
Puis il s'était fait mettre dehors avant même le début de la saison.
Exactement, parce qu'il avait refait une affaire avec une recrue. Là,
ben, en fait, c'était de mémoire qui fouillait dans les cellulaires des joueurs.
C'est ça, exactement.
Il disait aux joueurs, donne-moi ton sel, je veux voir toutes tes photos, des affaires de même.
Puis là, pour reconnaître la vie privée de ses joueurs.
C'est depuis ce temps là qu'il avait plus de job.
Hey, moi, j'adore ce gars-là.
Ah non, moi, écoute...
Tu fais un film sur ce gars-là?
Ouais, je connais un McDavid, puis je sais vous quoi? Peux tout de suite m'échanger à San Jose, ça va être assez.
Oh boy! Est-ce qu'il restait d'autres choses?
Oui, plein d'autres affaires. La finale de la Ligue américaine de hockey qui va opposer les Marlies de Toronto aux Wolves de Chicago. Mmh. L'ancien des remparts Justin Robida qui pourrait donc soulever la Coupe Calder 3 ans après avoir ramené la Coupe du Président et la Coupe Memorial à Québec. Pour ce qui est des Capitales, retour en action aujourd'hui face aux Boulders à New York. Blue Jays défaite de 5-2 face aux Phillies dans l'NBA. Les Spurs de San Antonio qui ont rebondi. Victoire de 115-111 hier au match 3 de la finale de la NBA. C'est donc 2-1 Knicks pour ce qui est de cette série-là.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation ou nous transmettre de l'information, par téléphone.